C'était prévu depuis le mois de mars. Et lorsque j'étais prêt à venir, c'était l'aéroport de Genève qui était fermé. Voilà, hein, vous en savez les raisons, il y avait de la neige, verglas, enfin, et c'était partie remise. Enfin, je suis là avec vous, dans la joie, bien sûr, de revoir monsieur et madame Ray, de revoir tous ceux que je connais, et puis de savoir que l'église de Jésus va de l'avant. Et c'est tout ce qui compte pour moi, que nous puissions tous aller de l'avant dans ces temps difficiles, dans ces temps critiques, savoir que notre foi, elle est intacte, elle ne diminue pas. Tout à l'heure, en plaisantant, je saluais un frère au milieu de nous, je lui ai posé la question, est-ce que le Seigneur vous aime toujours? Et il m'a dit, bien sûr, bien sûr. Oui, il nous aime. Et il ne nous aime pas parce que nous le méritons. Vous croyez que Mme Ray mérite d'être aimée? Elle va se dire, il me taquine déjà. Elle ne mérite pas, mais Dieu l'aime. Quand je dis Dieu l'aime, excusez-moi de l'expression que je vais employer, Dieu est fou d'elle. Dieu a tant aimé notre sœur Hélène, son cher mari Alain, chacun d'entre nous nous a tant aimé qu'il a donné son fils. C'est de la folie. D'ailleurs, la prédication de la croix, c'est de la folie. Dieu est fou de nous. Et ça, nous devons ne jamais l'oublier. Non pas parce que nous le méritons, mais il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et à cause de cela, ma foi, elle est soutenue, elle peut aller de l'avant. Je sais qu'il m'aime. J'ai des failles, j'ai des baisses, j'ai tout cela, mais je sais que Dieu m'aime. Et ça, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu. Cette première soirée, j'aimerais la consacrer à cela. Après, ce sera peut-être différent. Matthieu, chapitre 5e. Et le verset 17e. Tandis que vous cherchez, j'aimerais vous apporter les salutations de ma femme, de Colette, qui n'a pas pu se joindre à moi. Ça ne lui est pas toujours facile ni évident, mais elle m'a dit de bien vous saluer. Et surtout de saluer la famille, et bien sûr Ray en particulier. Et ce qui compte, eh bien, elle est là-bas, moi je suis ici, mais elle est aimée du Seigneur, comme je suis aimé du Seigneur, et je sais qu'elle prie pour nous en ce moment. Que Dieu soit béni. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. J'aimerais, dans ces instants, vous montrer la différence qu'il y a entre la loi et les enseignements de Dieu. Car souvent, dans le monde, on parle des commandements, des 10 commandements, ce qui est juste. Mais est-ce que les 10 commandements ont de la valeur pour des chrétiens? Question piège. Oui? Non. Non. Est-ce que vous avez lu avec moi ce qu'il en était? Ça ne sauvera personne. Ah, ça vous étonne? Les 10 commandements n'ont jamais sauvé qui que ce soit. Les commandements n'ont pas changé le peuple d'Israël, ils n'ont pas changé les pharisiens, les commandements n'ont pas servi aux gens à devenir de nouvelles créatures. Je vais vous donner des exemples. Nathanaël, qui était quand même un homme de la lettre, il n'était pas sauvé. il vient poser la question à Jésus. Le jeune homme riche qui a mis en pratique les commandements, est-ce qu'il était sauvé? Pas davantage. Est-ce que les pharisiens qui non seulement mettaient en pratique les 10 commandements, en tout cas d'une manière extérieure, et qui les avaient même subdivisés en 613 ordonnances, 6, 7 et 3, 10, ça faisait les 10 commandements, est-ce qu'ils étaient sauvés? Pas du tout. Vous voyez que les 10 commandements n'ont sauvé personne. Les 10 commandements étaient donnés à Dieu pour son peuple Israël afin de leur éviter de tomber dans les pièges de toutes les autres nations que Dieu chassait devant Israël. Afin de ne pas tomber dans toutes les tentations, dans tous les problèmes qu'ils rencontraient, dans tout ce qui poussait Dieu à maintenant porter son jugement sur de telles nations. C'était un petit peu comme un garde-fou. C'était ce qu'on appelle l'ancienne alliance, la loi de Moïse. Mais non seulement moi, mais Jésus le dit, et nous allons le voir. Et puis l'apôtre Paul en reparlera. Cette loi, elle n'a pas mené à un changement de cœur. Elle n'a pas mené à un changement de vie. Cette loi n'a pas transformé les êtres humains. Cette loi, il faut qu'elle vienne du ciel, en nous. La loi, c'est, je m'excuse, j'avais eu dit cela en son temps dans un camp, la loi, c'est apostrophe, E-S-T, fait, fais ceci, fais cela, fais telle chose, F-A-I-S, c'est fait, pour que tu puisses arriver à t'en sortir. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais le christianisme, la grâce, c'est quoi? C'est apostrophe EST, fait, F-A-I-T. Ça veut dire, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de faire. C'est fait. C'est acquis. Et il n'y a que par la foi que je peux saisir ces choses-là. Alors, j'aimerais vous montrer, au travers de ces choses-là, comment, justement, le Seigneur veut nous enseigner. Je parlais donc des 10 commandements qui n'ont amené personne, vraiment personne, à un changement de vie, à une conversion. Mais au verset 17 de ce que nous venons de lire maintenant, il est dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi, il n'y en a qu'un seul qui a pu la maîtriser, s'y soumettre, remplir les conditions de la bénédiction, c'est Jésus. Personne d'autre n'a pu la réaliser, pas même Moïse qui a donné la loi inspirée par Dieu. La Bible nous montre également au verset 19 ceci, c'est Jésus qui parle. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. De quel commandement s'agit-il? Eh non. Si ça avait été les commandements de la loi, comment serait écrit ces commandements? S-E-S. C'est-à-dire les commandements de la loi. Mais il montre CES, c'est-à-dire ces commandements que je vais vous décrire, que je vais vous donner. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas les commandements de la loi qui n'ont jamais amené les gens à la perfection, mais ce sont les commandements que lui, Jésus, va donner et qui sont possibles, et nous allons en voir la raison. Pourquoi les commandements de Jésus sont-ils si importants? Verset 20, pour notre salut. C'est lui qui le dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pourtant, il la mettait en pratique, cette loi. Du moins, ils essayaient extérieurement. Il leur dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que la loi a sauvé quelqu'un? Vous avez la réponse qui est là. Pour notre salut. Pour notre place dans le ciel. Regardez au verset 19. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, donc de ceux-là qu'il va enseigner, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les accomplira, etc., aura notre place. Les commandements que Jésus donne, la Bible nous dit, ils sont source de bénédiction. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, chapitre 15, verset 10, et encore 1 Jean 3. Les commandements que nous pouvons mettre en pratique, les commandements de Jésus, sont source de bénédiction, de réponse, de visitation. Et vous savez pourquoi également ? La Bible nous dit, un jour, le peuple de Dieu, vous, moi, nous tous, tous les chrétiens du monde, nous serons appelés à juger le monde et les anges. Alors pour les juger, comment pourrais-je les juger si je fais les mêmes choses ? C'est bien ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Qui es-tu, toi, qui juges et qui fais les mêmes choses ? Non, le Seigneur veut nous montrer qu'il y a quelque chose de différent. Vous me permettez de vous lire simplement ce qu'a dit Mitterrand. Je ne sais pas que je le cite comme un exemple à suivre, mais sa réflexion m'a quand même frappé. Il dit ceci. La mort de Jésus m'intéresse beaucoup. Un des plus beaux textes que je connaisse est celui du sermon sur la montagne. Songez que le Christ a prononcé ces paroles il y a 2000 ans environ et qu'au fond, rien n'a changé. Le Christ pourrait parfaitement justifier son retour pour prononcer exactement le même discours. Simplement, au lieu d'aller sur la montagne où l'on risquerait de ne pas l'entendre, il irait à Bobigny. Je ne le prends pas comme exemple chrétien, mais je veux dire comme exemple de réflexion. Lui, qui n'était pas spécialement religieux, dit quand même qu'il est touché, et je ne fais que lire quelques lignes, mais il est touché par le message de Jésus. Il est touché par les réflexions, le sermon sur la montagne que nous donne le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je crois qu'il est important pour nous de le réaliser. Alors, est-ce que pour nous, il est possible de mettre en pratique ces choses-là? Dans le livre des psaumes, au chapitre 40, psaume prophétique, d'ailleurs, c'est Jésus qui dira à ce propos, vous savez qu'il est question de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Au psaume 40e, il aurait fallu lire à partir du verset 7, tu m'as ouvert les oreilles, etc. Je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. La loi, c'est-à-dire, elle est au fond du cœur de Jésus. Est-ce que vous comprenez que si Jésus-Christ est dans notre cœur, la loi qui est dans le fond du cœur de Jésus est en nous? Je ne fais plus un effort. Je crois à la conversion. Le passé est effacé. Il est oublié. Le passé n'existe plus. C'est comme s'il n'avait même jamais existé aux yeux de Dieu à partir du moment où nous nous sommes repentis et qu'il nous a pardonnés. Nous sommes purifiés. Nous avons une nouvelle conscience. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Excusez les images que j'ai employées. C'est plus l'ancien aléré. Je ne sais pas ce que tu étais avant ta conversion, puis je ne veux pas le savoir. Ça ne me regarde pas. Mais c'est plus le même homme. Il n'y a rien à faire. Et il ne doit plus se souvenir de ce qu'il était. Il est devenu une nouvelle créature. Il est un homme nouveau. Et la loi de Jésus, celle qui est dans le cœur de Jésus, est dans le cœur d'Alain. Vous comprenez que la grâce, elle est supérieure à la loi. Pour moi qui le dis, c'est la parole. Il y a des livres entiers, l'Épître aux Galates ou autres, pour montrer que l'alliance de Christ est supérieure, elle est meilleure. D'ailleurs, si la première alliance, la loi de Moïse avait été bonne, est-ce qu'il y aurait eu besoin d'une deuxième? Et non, nous le comprenons. La Bible nous dit, à partir du moment où Christ est venu habiter mon cœur, alors je suis capable de réaliser, sans qu'on me dise « fais ceci, fais cela, fais telle et telle chose », je suis capable de réaliser les commandements de Jésus qu'il énonce. Je n'en citerai que deux tout à l'heure parce que ce n'est pas mon but de les détailler, mais pour montrer que tout est nouveau parce que mon cœur est nouveau. La loi ne sauve personne. La loi n'a sauvé personne, elle n'a changé personne, mais la grâce de Dieu fait de nous des êtres nouveaux, que Dieu soit béni. Et ça, c'est formidable. La grâce de Dieu. Dernièrement, j'étais dans une réunion, peu importe le lieu, et il y a un frère qui nous a rendu témoignage. Alors, il a une certaine place importante dans la municipalité, dans une grande municipalité, et envoyé avec l'autorité de la municipalité, il fallait qu'il aille enquêter sur un certain litige qu'il y avait dans un quartier. Il est de couleur, il est d'origine africaine, et il est allé là-bas, et alors là, il a été reçu pour voir comment. Un homme, sans même le connaître, l'air traité de tous les noms, un homme plein de racisme, de haine, etc. Et lui, il est resté calme. Il l'a regardé. Les autres lui ont dit, parce que c'était lui qui était visé, c'était lui le chef, c'est lui qui était visé, et les autres lui ont dit, mais qu'est-ce que tu attends? Mais donne-lui une bonne leçon. Il n'a pas bronché, il n'a rien dit. Et à la fin, il a dit, écoutez, moi je suis venu pour le travail, et il lui a dit quelque chose comme, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et le soir, il rendait témoignage, il me disait, avant de connaître le Seigneur, on se serait battu. Il dit, peut-être même, il y en a un qui serait mort. Il dit, avant de connaître le Seigneur, j'aurais eu de l'amertume, j'aurais augmenté en moi la haine des hommes d'autres couleurs. Il me dit, mais Christ est en moi. Il dit, je ne peux que l'aimer. Et il dit, ça, c'est vraiment la victoire de Christ en moi. Il ne s'est pas efforcé, c'est parce que Christ habite en lui. Je n'ai pas besoin de m'efforcer à faire quelque chose. Christ habite en moi, c'est fini. Il y a des années de cela, oh oui, des années, puisque mes deux dernières filles, mes jumelles, elles avaient, quel âge elles devaient avoir? Peut-être 8 ans, 9 ans. Elles étaient avec moi dans la voiture, je conduisais, je traversais la ville où nous étions. Je respectais les vitesses et, entre parenthèses, je ne les ai pas toujours respectées, mais j'ai respecté la vitesse dans la ville, je roulais tranquillement, et derrière, il y avait un qui me klaxonnait, il avait envie que j'aille plus vite. Et puis, il voulait me doubler, mais il ne pouvait pas. Et j'arrive à un feu tricolore, c'est rouge, je m'arrête. Il passe à côté de moi sur la ligne blanche, il passe à côté de moi, il se met un peu en biais, façon de m'empêcher de démarrer, et sous-entendu... Tu m'as ennuyé, et bien maintenant je vais me venger. Moi je me souviens, j'ai mis la première, j'ai accéléré sur l'accélérateur, je me suis dit, on va voir. Dans ma petite pensée, je me suis dit, même s'il m'accroche, lui il est en tort, il est sur la ligne blanche. Et mes deux jumelles qui étaient derrière m'ont dit, papa, tu es pasteur. Ah! C'est vrai, Seigneur, est-ce que tu aurais fait ça à toi? Alors, quand c'est passé au vert, il est parti. Seigneur, bénis-le. Nous ne sommes plus de la même nature. Et plus nous avançons avec le Seigneur, plus je me rends compte que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne mérite rien. Je ne mérite pas qu'il m'aime, mais il m'aime. Je ne mérite pas quoi que ce soit, mais il le fait, parce que je suis l'objet de son amour. Et cette grâce, elle ne m'amène pas à faire n'importe quoi. mais elle m'amène de plus en plus à essayer de plaire à celui qui m'aime. Un mari qui aime sa femme, que fait-il ? Oh les hommes, il n'y a pas de réponse. Il essaie de tout faire pour plaire à sa femme. Même si parfois il y a des choses qu'il n'aimerait pas faire, comme sortir la poubelle. Non, pardon. Et puis, il le fait parce que ça fait plaisir à sa femme, elle n'a pas à le faire. Femme, c'est la même chose. Vis-à-vis de votre époux, vous les faites, même s'il y a des choses qui vous pèsent, qui sont fatigantes. Je vais prendre un exemple. Faire pendant 70 ans, enfin, je ne vais pas aller jusque-là, 54 ans de mariage, c'est notre cas. Tous les jours, tous les repas, tout préparé, il y a des fois on a envie, des fois on a moins envie. J'ose pas interroger Hélène. Mais elle le fait. Pourquoi ? Parce qu'elle aime son petit Alain. C'est ça, là. Elle aime. L'amour, ça nous pousse à faire les choses, tout simplement. Pour faire plaisir. C'est ce que Dieu fait. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, je suis tellement confondu devant un tel amour qu'à mon tour, je l'aime. Et je cherche non pas à faire n'importe quoi, mais à lui faire plaisir à lui-même, que Dieu soit béni. Et ça, c'est pas la loi, c'est le christianisme. De telle sorte que ce n'est plus « fais ceci, fais cela », mais c'est fait, c'est déjà acquis. Et comme je suis devenu une nouvelle créature, la justice de Jésus, elle est en moi. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. C'est en moi. La nature de Christ, elle est en moi. C'est Paul qui disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit qui agissait dans la personne de Jésus. Le Saint-Esprit qui conduisait Jésus. Le Saint-Esprit qui gardait Jésus. Le Saint-Esprit qui faisait voir à Jésus les choses. C'est le même esprit qui habite en moi et qui habite en chacun d'entre nous. C'est le même esprit. Et ce Saint-Esprit en question, c'est lui qui a fait de moi une nouvelle plante. Je ne peux plus produire des fruits mauvais, je n'en produis que des bons, parce que je suis greffé par notre Seigneur Jésus. Alors, les gens s'efforcent, ils essaient de faire, et ils comptent sur eux, ils comptent sur leurs efforts, ils essaient de faire les choses. Alors, un jour ça va, le lendemain ça va pas bien, alors ils sont sur les hauteurs, ils sont dans les profondeurs, ils savent plus où ils en sont. C'est pas ça le christianisme. Si c'est le christianisme en question, c'est pas plus qu'une religion, quelle qu'elle soit. Le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme, c'est être sur les hauteurs. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est par la foi. Voilà ce que nous apprend la parole de Dieu. Alors justement, regardez ce que dit la parole à propos de ce que Dieu nous demande. Du verset 21 au verset 26, il est question de la colère. La colère. C'est pour vous donner quelques exemples de la parole de Dieu. La colère. Je ne parle même pas des tempéraments colériques, mais la colère. Qui ne s'est jamais mis en colère? Alors, Jésus dit, vous avez appris, tu ne te mettras pas, tu ne tueras point. D'ailleurs, la loi de Moïse, c'est toujours du futur. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu n'adoreras point de faux dieux, tu ne feras. Jésus parle au présent, parce que maintenant, Christ vit en nous. Alors quand je parle de cela, je veux dire, nous pensons que tu ne tueras point, ça arrive quand nous sommes des criminels, nous sommes mauvais, etc. Mais Jésus dit non. Le fait même de se mettre en colère peut amener jusqu'au meurtre. Et vous le savez aussi bien que moi, parfois, par réaction, des gens se sont battus et il a été tué. Ce n'était pas l'intention de le tuer. Mais voilà, ça s'est produit. Alors, Jésus dit, quand on devient une nouvelle créature, mais la colère, elle ne doit même pas se manifester. Il ne faut pas qu'il y ait de haine, raca, il ne faut pas qu'il y ait de mépris. Et vous avez remarqué comment un chrétien n'a pas de mépris pour quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il n'y a que les chrétiens comme ça. Dans une église, il n'y a pas de mépris que nous ayons la peau jaune, noire, blanche, verte ou rouge ou tout ce que nous voulons. Nous sommes tous pareils, les créatures de Dieu. Nous sommes chers à la prunelle de Dieu. Il nous aime. Il n'y a que dans l'église de Christ qu'on trouve ça. Pas dans ce monde. On ne méprise pas. Insensé. Insensé, c'est un terme de malédiction. Hier soir, encore quelqu'un me téléphonait, mais c'est pas vieux, une dame, parce qu'elle a été menacée par quelqu'un qui lui en veut, à elle et ses filles, parce qu'elle vit seule. Elle était un petit peu remuée, et elle me cherchait conseil, réconfort. Alors je lui ai parlé au téléphone, mais le chrétien, il ne fera pas une chose semblable. Il ne donnera pas la malédiction. Il ne souhaitera pas la malédiction. Ça va, c'est bien au-delà de tuer. C'est le fond du cœur. Quand on devient chrétien, on devient une nouvelle créature. De telle sorte qu'on ne méprise pas les semblables. De telle sorte qu'on ne souhaite pas la malédiction. Je me souviens de personnes qui sont allées voir des gens qui plus ou moins disent soi-disant la bonne aventure ou encore sont capables de faire du bien. Mais je me souviens des gens qui sont allés qui m'ont dit, vous savez, si on ne les écoute pas, ils peuvent nous faire du mal aussi. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Il ne le veut pas. Non, le chrétien ne se met pas en colère. Ça peut arriver dans notre faiblesse. Et que dit la Bible ? Ne vous couchez pas sur votre colère. Non. Le Seigneur nous rend vainqueurs dans tous ces domaines-là. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Je ne sais pas comment vous étiez avant de vous convertir. Moi, je sais ce que j'étais. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Mais, vous savez, quand on est petit, on fait comme les petits roquets. On a tellement peur des grands qu'on prend les devants, comme pour intimider. C'est comme un petit chien qui aboie, il aboie. Mais quand le gros se présente devant, le petit, il s'en va vite. Et j'étais pareil. C'était ma nature. Parce que j'étais conscient que j'étais faible. J'étais conscient que je ne m'en sortirais pas. Alors je prenais les devants. Ça, c'était avant d'être chrétien. Mais maintenant que je suis devenu chrétien, je n'ai pas besoin de prendre les devants. Au contraire, quand quelqu'un nous souhaite, et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore. Quand quelqu'un voudra me souhaiter du mal, je le bénirai au nom du Seigneur Jésus. Et je le fais. Je connais un tas de personnes qui m'ont dit, moi, je serai en position d'autorité, je tuerai tous les chrétiens. Mais je dis, moi, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Personne n'était étonné. Vous êtes capable d'aimer après ce que je vous dis, oui. Pourquoi ? Parce que Christ habite en nous. Un soir de réunion, une réunion de jeunesse, je m'en souviens, j'étais à la sortie de l'église, je saluais les gens, il y a une jeune fille, Nathalie, elle passe devant moi en trompe, comme une furie, elle était plus grande que moi, elle va fumer une cigarette dehors, et puis elle rentre, elle se plante devant moi, elle croise les bras, elle me regarde, elle me toise parce qu'elle était plus grande que moi, elle me dit, monsieur, je vous hais. J'étais pas habitué à ce langage. Moi, j'étais habitué au langage de mes filles qui me disent « Papa, je t'aime ». Alors, je la regarde. J'ai dit « Écoutez, moi, je vous aime et Dieu vous aime. » Elle est partie. Une année après, cette fille était convertie. Elle appartient au Seigneur maintenant, Nathalie. Non, nous ne sommes pas là pour répondre. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est l'œuvre de Dieu. Je crois à cette œuvre. Je n'ai pas besoin de me forcer c'est fait, Seigneur, puisque tu as acquis cela, alors je veux le vivre en toi. Également, faire attention, la Bible nous dit dans ce passage que nous n'avons pas lu parce que je vous laisse le soin de le lire chez vous, il nous est dit de faire attention à la manière de se réconcilier. La Bible dit que nous avons un ministère de réconciliation. Logiquement, une fois chrétien, nous devrions amener des gens à se réconcilier, des familles à se réconcilier, et en tout cas amener le monde à se réconcilier avec Dieu. Alors, avant d'amener les gens à faire cela, est-ce que nous, nous sommes réconciliés avec les autres, ceux qui nous entourent, nos voisins, nos amis, entre guillemets, nos collègues de travail? Est-ce que nous sommes réconciliés? Ou est-ce que nous attendons, pour nous réconcilier, que ce soit d'abord les autres qui viennent nous demander pardon? C'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande, réconcilions-nous avec eux. Ça dépend de notre façon de les aimer et d'aimer le Seigneur. C'est l'apôtre qui disait ceci. Regardez-nous. Et il fallait qu'on les regarde comme des hommes de Dieu. Est-ce que les gens peuvent nous regarder comme des hommes et des femmes de Dieu? Ce n'est pas des paroles. Simplement, au fait de nous regarder, est-ce qu'ils peuvent se dire, ces gens-là sont différents? J'insiste sur ce mot. Plus d'une fois, vous avez rencontré des personnes qui vous ont regardé, parlé, alors que vous ne les connaissez pas, parce qu'elles vous ont jugé différentes des autres personnes qu'elles côtoient. Oui, vous êtes différents quand Christ habite en vous. Plusieurs fois, je l'ai partagé avec mes frères pasteurs dans le congrès, plusieurs fois des personnes sont venues, que ce soit dans l'avion, dans un train, m'ont regardé, m'ont dit, « Monsieur, vous êtes différent. » J'ai dit, « Oui, je suis différent. Je ne suis pas meilleur. » Je ne suis pas exceptionnel, mais je suis différent parce que Christ habite en moi. Et chaque fois, Dieu m'en est témoin, c'était l'occasion de parler de Jésus. Puisqu'ils nous trouvent différents, il faut leur dire la raison. Christ vit en moi, je suis différent. Il ne doit pas y avoir de colère. Quelle différence y a-t-il si quelqu'un, pour une raison ou une autre, me fait quelque chose de pas bien et que je me mette en colère? Le monde agit comme cela. Mais si devant quelque chose qui aurait pu me mettre en colère, je réagis avec l'amour de Dieu, ça touche les gens. Je dirais même, ça désarme les gens. La Bible nous dit que celui qui est capable de se maîtriser lui-même, il est mieux qu'un héros qui a remporté la victoire sur 10 villes. Que le Seigneur nous aide à cela. Et la Bible va plus loin. Elle nous dit, ne donnez pas l'occasion aux autres de se mettre en colère. L'apôtre Paul dira, lui, « Parents, n'irritez pas vos enfants. » Sous-entendu, ne les poussez pas à se mettre en colère. Ne les irritez pas au point où ils ne pourront plus vous supporter. La Bible nous dit de faire la même chose. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulions pas qu'on nous fasse. Mais Jésus nous dira, « Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse à vous-même. » Que le Seigneur puisse nous amener à réaliser, nous sommes devenus une nouvelle créature. Je n'ai pas besoin de me forcer. Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Et si tu vis en moi, moi je ne vois pas Jésus se forcer. Je ne vois pas Christ s'obliger. Non, il est tellement rempli. Je suis venu pour faire, accomplir ta volonté, pour montrer la justice de Dieu. Et cette justice, elle est en vous. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Est-ce qu'elle est en moi, cette justice? Est-ce que vous me permettez de parler de la deuxième loi que je trouve si tôt après? Vous avez appris qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Et là encore, vous savez dans quel monde nous vivons, où tout, je dis bien, tout est fait pour que l'impureté ait lieu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, je l'ai eu partagé quelques fois. Je me souviens d'une interview que j'entendais, je conduisais ma voiture, c'était à la radio, c'était au moment des informations, on interviewait un homme, on lui posait la question, « Monsieur, est-ce que vous avez trompé votre femme ?» Alors bon, comme c'était une émission, il a dit non. Je veux même pas savoir, je veux même pas chercher. Et cette speakerine lui a dit, monsieur, vous êtes anormal. C'est l'esprit du monde. Dans l'esprit du monde, l'anormal, c'est celui qui est fidèle. Le normal, c'est celui qui a des aventures. C'est notre esprit du monde, ça. Mais quand on est en Christ, la Bible nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, j'aimerais préciser, pour arriver à l'adultère, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme cela. Mais la Bible nous montre qu'il y a l'adultère spirituel, l'adultère moral qui entraîne à l'adultère physique. Alors l'adultère spirituel, c'est quoi ? C'est faire passer avant Dieu tout ce qui est idole. C'est ce que Dieu reprochera à son peuple d'Israël. Et si dans mon cœur, je dis aimer Dieu, mais que mes idoles soient différentes, je ne veux pas parler d'idoles maintenant, j'ai comme un adultère dans mon cœur. Ensuite, il y a ce qu'on appellera l'adultère moral. C'est celui de la pensée. Cette pensée qui est influencée par ce que je vois et ce que j'entends. Ce que je vois, c'est Job qui disait dans son livre, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour montrer par là que ce qu'il regarde peut l'influencer. J'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder une vierge. Or, dans ce monde, tout est fait pour que nos yeux soient salis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez les publicités à la télévision. Pour des choses qui n'en ont pas besoin, automatiquement, il y a des choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont montrées. C'est une influence. C'est de la sublimination. C'est quelque chose de moral. Ce que nous entendons. Et c'est incroyable comment des émissions de plus en plus vulgaires, grossières, grotesques, disent des histoires qui sont licencieuses et qui pénètrent de telle sorte que c'est une habitude qui peut se faire. Mais vous avez remarqué qu'un chrétien, il ne peut pas vivre cela. Un chrétien est attristé. Et un chrétien se sort de ces choses-là. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire « Je travaille dans une usine, je travaille dans un bureau. » Quand ils veulent dire des blagues qui sont sales, ils les disent quand je ne suis pas là. Parce que ils savent qu'un chrétien ne supporte pas cela. Je me souviens d'un frère qui travaillait dans un bureau et il y avait des affiches, des photos de femmes dévêtues qui étaient là affichées. Et lui, il est rentré, il a prié dans son cœur et puis il a rendu témoignage. Ils ont enlevé les photos. Parce que, il ne leur a pas dit qu'il faut les enlever, mais il leur a montré que lui, il n'y était pas dans cette affaire-là. Et il a amené 1, 2, 3, 4 personnes au Seigneur de ce bureau. Que Dieu soit béni. Non. Nos yeux peuvent nous pousser. Et alors quand on est adultère, idolâtre, moral, il n'y a qu'un pas à faire pour l'adultère physique. Et je ne juge personne. Je ne condamne personne parce que Dieu peut relever. Que Dieu soit béni. Mais le Seigneur nous montre comment on peut être vainqueur. Il a dit, vous avez appris, tu ne feras pas cela. Et s'il y a un divorce, vous donnerez une lettre, etc. Je ne veux pas m'expliquer sur cela. Je suppose que vos pasteurs l'ont déjà fait. Mais vous savez quelles sont les conséquences et les drames quand il y a un adultère. Dégoût de soi qui amène à la dépression. Un esprit de jalousie, parce qu'après on mesure les autres, la mesure dont soi-même on a agi, et on s'est laissé tenter. Ou alors on vit dans le mensonge, pour cacher il n'y a pas longtemps. J'étais invité avec deux pasteurs chez une chrétienne, sa maman l'est, son mari non, ne l'est pas. Et puis il était là, où il a parlé, j'ai écouté parler. Moi j'étais en bout de table puisque j'étais le personnage le plus âgé, et j'ai écouté. Et au fur et à mesure qu'il me parlait, j'étais convaincu qu'il vivait dans l'adultère. J'ai rien dit, bien sûr. Mais quand je suis rentré, je l'ai dit à Colette. Toi, cet homme m'a fait de la tristesse, de la peine. Voilà ce qu'il en était. Quelques semaines après, il dévoilait à sa femme le nombre d'années dans lesquelles il a vécu comme cela. Le mensonge. Quand on vit comme cela, on devient irritable. Parce que on n'est pas bien en soi. On devient hypocrite. Et puis ça entraîne à la séparation. Et ça entraîne les problèmes pour les enfants. Tout cela a commencé, pourquoi ? Avec quelque chose de spirituel. L'idolâtrie. Peu importe laquelle. Mais si je suis chrétien, je ne suis plus un idolâtre. Si Christ vit en moi, ce n'est pas possible que je sois un idolâtre. Si Christ vit en moi, je saurai respecter les gens, quelles que soient leurs conditions, reconnaître leurs valeurs, me dire à chacun ce qui lui est, donner à chacun ce qui lui est dû, mais ce ne sera jamais mon idole. Telle star de la chanson ne sera jamais mon idole. Tel gouverneur, etc., ne sera jamais mon idole, tout comme du temps de Daniel et de ses trois compagnons. Jamais. Pour moi, c'est Jésus qui règne. Je n'ai pas d'idole. Si l'idolâtrie n'a aucun pouvoir en moi, parce que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je m'adresse à Dieu, mon Père. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Père ou Papa. Mais c'était dans un cantique. Dès l'instant où Christ vit en moi, ce n'est plus. Je n'ai plus rien à voir avec cela. Et si je n'ai pas l'idolâtrie dans mon cœur, cause de l'adultère, je ne l'aurai pas non plus moralement. Parce que tout ce qui sera l'objet de mes pensées, c'est ce qui est agréable au Seigneur qui vit en moi. Tout ce qui peut me rapprocher de lui. Et à partir du moment où je serai gardé spirituellement, moralement, je saurai également physiquement que Dieu soit béni. Mais il y a la différence entre la loi. Pourtant, la loi, elle punissait de mort. La loi, elle punissait de mort. Souvenez-vous de cette femme pécheresse qu'on conduit devant Jésus, prise en flagrant délit d'adultère. Ils avaient tous leurs pierres pour la lapider. D'ailleurs, ils ont conduit la femme. Ils n'ont pas conduit l'homme. Alors que c'est les deux qui devaient être pris. Mais ça ne changeait rien. La loi, ils la connaissaient. Les pharisiens avaient donné leur verdict, tout cela. Rien à faire, ça ne le changeait pas. Jésus lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient ? Ils sont partis. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Et là, je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu l'a atteint et je suis convaincu du reste de sa vie. Là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Et cette grâce, elle ne m'excuse pas pour devenir un plus grand pécheur, mais cette grâce, elle m'attire toujours plus près de lui, que Dieu soit béni. La loi, ce n'est pas « fais ceci ou fais cela », la loi, c'est Christ qui vit en moi. Il est ma justice, il est ma loi, il est ma grâce, il est la vérité, il est ma paix, il est ma joie, il est tout cela. Est-ce que Jésus-Christ règne dans ta vie ? Ce n'est plus « faut que je fasse ceci, faut que je fasse des efforts pour y arriver ». Non, non, Seigneur, tu as tout accompli, maintenant je crois en ta grâce. Je crois, c'est ça la foi. Pas cette foi qui consiste à croire de temps en temps en certaines bénédictions quand je suis malade que Dieu va me guérir ou encore que Dieu va me pardonner pour telle faute. Non, c'est la foi qui m'aide à vivre au quotidien. Une foi, et mon juste vivra par la foi. C'est toute une vie, la foi, tout un langage. J'avais une discussion avec une dame hier qui vivait dans la crainte, dans la peur. Alors je lui ai dit, Sœur, quel est l'opposé de la crainte et de la peur? Si je vous demande, si vous allez me dire. Non. Non. C'est l'amour. L'opposé de la crainte, c'est l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Et si je vis en contact avec celui qui m'aime, de qui aurais-je crainte? Si je sais qu'il m'aime et qu'il me conduise comme il a conduit, admettons, ses disciples au milieu de la mer, il leur demande, mais pourquoi avez-vous peur? Bien sûr, il leur reprochera le manque de foi, mais ils sont aimés. Et parce que je sais que Dieu m'aime, je n'ai pas à craindre. Parce que celui qui est en moi est plus fort, plus grand que celui qui est contre moi. L'opposé de la crainte, de la peur, c'est l'amour. Est-ce que Dieu vous aime? Vous comprenez pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure? Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que je suis assuré ce soir que Dieu m'aime? Alors, c'est plus fais ceci, fais cela. Mais je sais qu'il m'aime parce que c'est déjà fait. Et je n'ai plus qu'à rentrer dans la victoire du Seigneur. Il m'a changé. La Bible nous dit, quand nous sommes passés par la repentance, qu'ils sont passés par le baptême, nous avons été crucifiés avec Jésus. Nous sommes d'accord? Alors si nous avons été crucifiés, nous sommes morts. Et nous ressuscitons en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus le même personnage. Je suis un personnage nouveau dans lequel Christ vit. Et dans le fond, ce n'est plus moi qui fais quoi que ce soit. C'est Christ qui les fait au travers de moi. Que Dieu soit béni. Oh! Vous voyez, le christianisme, il est extraordinaire. Extraordinaire, le christianisme. Quand je vois ces choses-là, quand je me rends compte des vies transformées, des femmes transformées, des hommes transformés, des jeunes transformés, des vieillards transformés, et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Donnez une nouvelle, simplement parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans de cela, en 2016, nous faisions une évangélisation dans la rue, la nuit, auprès des prostituées, et nous sommes tout un groupe, bien sûr, et j'avais une de mes petites filles, qui s'appelle Elisa, avec moi. Et puis on a parlé, on témoigne, on prie, etc. Parfois on chante. Et puis bon, elle est partie 2 ans aux États-Unis. Pendant ces 2 ans, elle a été retrouvée sur Facebook, ma petite fille, par une des prostituées à laquelle nous avions témoigné. Et ayant retrouvé ma petite fille, elle lui a dit, j'ai quitté le trottoir, je suis allé me réfugier dans telle ville, je me suis décidé pour Jésus et maintenant je vis dans telle ville en France. Elle m'a donné le nom de la ville, etc. Je passe les détails. Ça m'importe peu. Elle est chrétienne. Elle marche avec Dieu. Quand je me rends compte, mais c'est la grâce de Dieu, ça. Et qui dit grâce, ne dit aucun mérite. Rien du tout. Elle ne méritait pas, vu son contexte. Mais la grâce de Dieu a surabondé là où le péché abondait. Et la grâce de Dieu, elle ne nous quitte pas. La grâce de Dieu, elle est toujours sur nous. La foi, elle est toujours en nous. L'amour de Dieu, il nous couvre toujours. Que Dieu soit béni. Et il y a 15 jours, nous faisions une même évangélisation. À nouveau, il y en a quelques-unes qui sont venues. D'ailleurs, je veux vous dire, parmi celles que nous avons abordées, il y a une fille de pasteur. Adédé, qui était là, prise dans les filets. Ah, elle est venue. Et le Seigneur est en train de la sortir. Une autre est arrivée, elle avait eu un songe, et elle voyait un groupe qui lui portait une Bible, alors qu'elle cherchait une Bible. Il y avait 3 semaines qu'elle était en France. On avait des Bibles, on lui a donné. C'est la grâce de Dieu. Mais si la grâce de Dieu est là, parce que Dieu les aime, mais son amour ne va pas les laisser une fois qu'elles seront converties. L'amour de Dieu va nous poursuivre et nous conduire jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Est-ce que nous croyons en cette grâce ? c'est pas la loi. C'est Jésus qui vit en nous et nous sommes au-dessus de la loi. Et je crois que notre nom est inscrit dans le livre de vie, oui ou non? Oui? Est-ce que les pharisiens avaient leur nom inscrit dans le livre de vie? Et non. Est-ce que Nicodème l'avait? Est-ce que le jeune homme riche l'avait? Ils n'avaient pas leur nom. Notre nom est inscrit dans le livre de vie parce que Christ nous a pardonné et il vit en nous. Est-ce que vous pouvez réaliser ce soir que Christ vit en nous? Vous le croyez? Qui croit que Christ vit en lui ce soir? Ce n'est pas pour savoir lever les mains. Vous en êtes conscient? Conscient que Christ vit en vous? Alors vous êtes une nouvelle créature. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Vous n'avez simplement qu'à croire que la grâce de Dieu agit en vous. Et vous allez voir que c'est lui qui va agir tout simplement. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur pour une telle religion. Ça c'est le christianisme. C'est fait. Il n'y a plus rien à y ajouter. C'est fait qu'à croire. Seigneur, je te loue et je te bénis.